Studio Tamani, voici les informations en français.
8 heures à Bamako sous une température de 29 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. La Terre se réchauffe aujourd'hui plus vite que jamais. La température a atteint 1,45 degrés Celsius. C'est ce qui ressort du nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie présenté ce mardi à l'ONU. Célébration ce 19 mars de la Journée mondiale des eaux et forêts à Bamako. Selon les autorités, cette journée permet aux acteurs de développer des stratégies pour la préservation des forêts. La Chambre du commerce et d'industrie du Mali et la CNTIF s'impliquent dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles ont organisé à cet effet un atelier de sensibilisation. Le point complet de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté. Mamadou Ouattara est à la technique. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'année 2024 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. C'est en tout cas ce qu'annonce le nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie. Le document intitulé « L'état du climat mondial en 2023 » a été présenté ce mardi à l'ONU. Il ressort de ce rapport que la température moyenne en surface de la Terre a grimpé à 1,45 degrés Celsius de plus que les niveaux pré-industriels de 1850 à 1900. Mais comment cette hausse de température se manifeste au Mali? La réponse avec Intala Agbilal.
Souma Kouloubeli est expert en changement climatique. Il explique que les possibles conséquences de cette hausse de température sont les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les feux incontrôlés, entre autres. Il énumère quelques dispositions qui peuvent amoindrir les effets de ce dérèglement du climat au Mali.
Pour le cas du Mali, nous avons des zones de production qui pourront beaucoup, en tout cas, nous permettre de faire face à la de chaleur. Enfin, nous avons deux grands fleuves, le fleuve Sénégal, le fleuve Niger et leurs affluents, surtout le bassin du delta central du Niger, qui sont des zones de production qui pourront nous permettre vraiment de produire suffisamment pour nourrir notre population. Nous ne sommes pas à ce niveau, mais par endroits, des zones à l'extrême nord et une partie de la région des Caïques qui sont entre guillemets classées zones rouges en termes de production lorsque la chaleur augmente.
Le changement climatique a entravé les activités des paysans et des éleveurs dans certaines régions du pays. C'est le cas de la région de Nioro du Sahel. Niamankolo Diabaté, directeur régional de l'agriculture de Nioro du Sahel.
Ici, à Nioro, tout a changé. Les conditions de production des paysans ne sont pas les mêmes. La sédentarisation des éleveurs devient difficile. Le prix des denrées alimentaires augmente de jour en jour. Il pleuvait dans la zone jusqu'à 600 mm de pluie par an. Mais actuellement, avec ce changement climatique, on a difficilement 500 mm de pluie par an. Culture sèche sur le champ.
Il faut rappeler que la crise climatique peut entraîner d'autres crises comme l'insécurité alimentaire, le déplacement des populations, la perte des végétaux et des animaux.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Journée mondiale des eaux et forêts a été célébrée ce mardi 19 mars à Bamako. L'occasion a été saisie par les responsables de la Direction nationale des eaux et forêts de présenter le bilan des activités de l'année 2023 et les programmes pour 2024. Selon général Kanouté Fatmata Kone, inspectrice générale des eaux et forêts, cette journée permet aux acteurs de développer des stratégies pour la préservation des forêts. Elle est au micro de Sita Sidibé.
L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est la réunion du bilan 2023 et la programmation 2024. Donc c'est mieux qu'ensemble, on analyse ce qu'on a fait en 2023, faire notre autocritique et partir sur une bonne base pour 2024. En 2023, il y a eu la création de la Direction générale des eaux et forêts. Il y a eu la dotation des services en moyens roulants, moyens informatiques, matériel de bureau. Il y a eu la mission de protection de la faune et des ressources forestières. Il y a eu aussi des missions de lutte contre les agressions. C'est une lutte implacable qui est vraiment engagée pour lutter contre toutes les agressions de nos domaines forestiers et fauniques. Pour 2024, on compte travailler déjà sur la création des services régionaux et subrégionaux des eaux et forêts et leur opérationnalisation. Il y a des missions de contrôle qui seront intensifiées.
La gestion agricole et foncière, c'est le thème d'un atelier organisé mardi dernier à Tomia. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs locaux et les autorités communales sur les textes relatifs à la gestion agricole, notamment la loi d'orientation agricole, le plan du foncier agricole et ses décrets d'application. Il s'agissait aussi d'informer et de sensibiliser les acteurs sur les enjeux des commissions foncières. L'activité a été organisée par la Coordination nationale des organisations paysannes en collaboration discussion avec l'Association des organisations professionnelles paysannes. Je vous l'annonçais dans le titre, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme préoccupe la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. En partenariat avec la CNTIF, elle vient d'organiser un atelier de sensibilisation et d'information à l'intention de ses employés et des opérateurs économiques. L'activité entre dans le cadre global de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les détails avec Lalaïcha Wallet Infa.
La direction de la Cellule nationale des traitements des informations financières et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali entendent jouer leur partition dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Idrissa Mahamar Haïdara, directeur de la CNTIF.
La CNTIF a une mission fondamentale qui est d'analyser les dénonciations dans ce cadre-là. Mais la loi ayant été réformée dans ce cadre, nous sommes en train de sensibiliser tous les acteurs là, pour qu'ils puissent souscrire à leur devoir de déclaration de bénéficiaires effectifs dans les conditions les plus idoines.
La vice-présidente de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali exhorte les travailleurs de la Chambre et les opérateurs économiques à se considérer comme des acteurs dans la lutte contre ces phénomènes qui tuent l'économie nationale. Dr Cissé Dita Dem.
Moi je pense que ça peut aider parce que souvent, sans même le vouloir, peut être au milieu d'un circuit terroriste. Donc si les opérateurs économiques sont déjà avertis, on sait plus beaucoup les aider.
Selon les deux structures, les activités de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans un pays peuvent avoir des répercussions négatives graves au-delà de ses frontières.
Parlant de sécurité, face à la recrudescence de l'insécurité dans le cercle de Massina, des élus communaux alertent les autorités. Selon un élu communal sous anonymat, malgré les efforts consentis par les forces armées maliennes, des attaques sont récurrentes dans la zone. Ils souhaitent l'installation d'une base militaire dans la commune de Saro. Nous l'écoutons.
Au niveau du cercle de Saro, en ce moment, il y avait 28 villages déplacés. Ces villages déplacés, c'était aux environs à peu près de 22 156 habitants. Je reconnais aussi que les femmes sont en train de travailler. Mais comme la zone est très vaste, mais toujours vraiment, on fait un coup de cœur au gouvernement. C'est pour toujours venir nous soulager nos paisibles populations. Le cercle même compte 95 219 habitants. Il est réparti dans les communes que j'ai citées, qui fait au total de 82 villages. Et nous sollicitons une base militaire à Saro pour la stabilité totale des populations et nous serons gris de militaires afin de soulager la souffrance de nos populations.
Direction 100 ou 7 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels et équipements remis à un réseau de jeunes paysans. C'était mardi à la mairie de 100. Les matériels sont essentiellement composés de motoculteurs, séchoirs et mototaxis. Le geste est du projet Jigitugu Helvetas Swiss Intercorporation. L'objectif est d'accompagner ces jeunes dans leur insertion socio-économique.
Sijo Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
À présent, on en vient à notre rubrique. Nous sommes au mois de Ramadan. Dans la rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, notre chroniqueuse Aïchata Diarra nous parle des changements vestimentaires et de comportement durant ce mois. C'est avec la voix de Adama Amadou Haïdara.
Le Ramadan est un mois différent des autres chez les musulmans. Évidemment, on n'a plus le droit de dire des grossièretés, sinon on est toujours rappelé à l'ordre par quelqu'un qu'on croit. Hey, tu n'es pas un jeune, dis estafroullah. Car selon les croyances, faire ou dire certaines choses diminue la récompense du jeûne. En plus de cela, on assiste au changement vestimentaire chez les femmes et jeunes filles. On fait face à des nouvelles hadjas, plus de jupes ou de robes serrées, ou encore des jeans pantalons et des mini-jupes. Les hommes deviennent des haladis. Ils portent fréquemment des boubous et certains se promènent même avec leur chapelet à main. Pendant les heures de prière, ils partent tous à la mosquée. Certains d'entre eux veillent toute la nuit pour ensuite passer la journée au lit. Cela pour ne pas trop sentir la faim. Et comme le disait un imam, le jeûne durant le Ramadan n'est qu'un des 5 piliers de la religion musulmane. Selon lui, le comportement du fidèle doit être en phase avec les recommandations du Saint-Coran, même après la période du jeûne. Sur ce, nous souhaitons un bon mois de Ramadan à toutes et à tous.
Merci Adama et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour écouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez retrouver également toutes nos productions sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Ne décrochez pas dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de ce journal. Une présentation de Juliette Koulibaly, mais avant tout de suite, le magazine. Au Mali, depuis la crise de 2012, de nombreuses ONG humanitaires sont présentes dans les zones de crise, notamment les régions du nord et du centre. Malgré les défis sécuritaires, le Conseil norvégien pour les réfugiés reste déterminé à apporter de l'aide aux plus vulnérables. En 2023, NRC a apporté assistance à 271 000 personnes à travers le Mali pour les services de développement social et les élus locaux. Ces ONG appuient fortement les efforts des autorités. Toutefois, ils demandent aux humanitaires de renforcer leur système d'intervention car le besoin d'assistance reste alarmant. Notre magazine d'aujourd'hui parle de l'assistance humanitaire apportée aux déplacés. Il est présenté par Lale Tangara avec la collaboration de nos correspondants locaux.
Plusieurs personnes ayant fui l'insécurité dans la commune de Boura sont accueillies sur le site de déplacés dans Songo. Certains témoignent avoir bénéficié de l'aide venant du Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC. Ils énumèrent des infrastructures en eau et autres kits sanitaires.
On a reçu des aides avec les ONG, surtout NRC. À notre niveau, nous avons reçu presque 3 points d'eau, sinon 4 même.
Ils ont donné à manger, ils ont donné tout, avec de l'eau. Ils ont donné des médicaments à tous les enfants. Les femmes.
Depuis qu'on est là, on a vraiment eu des appuis des ONG, précisément NRC. Ils ont donné des nourritures, de l'eau potable. On lance vraiment un appel à toutes les ONG vraiment de nous appuyer.
Djibrila Bonkana Maïga est le maire de la commune de Boura, dans la région de Gao. Il confirme ses appuis apportés aux déplacés par ces ONG humanitaires. Selon lui, elles font de leur mieux pour atténuer la souffrance des populations, mais il leur demande de multiplier les efforts.
L'année passée, une population a exploité leur parcelle, mais c'est l'année à venir qu'il faut craindre parce que la plupart des gens n'ont pas pu exploiter leurs champs. Il n'y a pas de bétail, pas de vaches, pas de moutons, pas de chèvres. Les humanitaires ont fait leur mieux. Il y a l'alimentation, il y a le cash, il y a même les produits pharmaceutiques. Les ONG, les humanitaires, ils ont multiplié leur aide.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, est une des ONG humanitaires présentes au Mali depuis 2013. Elle intervient spécifiquement dans les zones de Ségou, Koulikoro, Tombouctou, Gao et Menaka. Innocent Niaouma, responsable du bureau NRC à Mopti, donne plus de détails sur les activités menées par l'organisation humanitaire.
Durant le premier mois de déplacement, qui consiste à donner des kits pour des biens essentiels, la nourriture, des fois de l'eau, origine et assainissement, dans le premier temps, où on construit des latrines, on fait des réhabilitations des points d'eau. Mais après, on a aussi une réponse humanitaire qui englobe l'éducation, la protection, hygiène, assainissement, abri. Mais aussi, on soutient les populations en ce qui concerne la documentation civile et la sécurisation de leurs biens.
Plus de 91 000 déplacés internes ont été enregistrés en fin janvier 2024 à Mopti. Ces chiffres sont du service du développement social de la région. Selon son chef, Boubacar Dendebou Diallo, il collabore avec des partenaires comme le PAM et NRC pour des réponses rapides aux urgences.
Nous mobilisons les partenaires pour nous accompagner pour l'évaluation des besoins des déplacés. Et après l'évaluation, il y a toujours une assistance. Parmi les humanitaires, il y a des acteurs qu'on appelle les acteurs RRM, le mécanisme de réponse rapide. Au moment où ils arrivent, qu'ils puissent bénéficier le plus tôt possible d'une assistance. À travers ces mécanismes, on peut dire que tous ceux qui arrivent dans les zones où on peut accéder facilement à ces déplacés, les évaluations sont faites et ils sont assistés.
Cependant, le responsable du NRC à Mopti souligne des difficultés pour la mise en œuvre de leurs activités. Innocent Niaouma, responsable du bureau NRC à Mopti.
Nous intervenons normalement dans les zones difficiles d'accès avec des routes moins praticables, mais aussi en termes d'accès de sécurité, des zones où il y a la présence de groupes armés. Deuxième défi qui est directement lié à l'acceptance de la population, par toute la population et de toutes les parties prenantes au conflit. Le dernier défi, c'est par rapport à la sécurité. Nous craignons craignons que de temps en temps, les acteurs humanitaires peuvent être pris à partie par une partie au conflit lors de nos interventions humanitaires.
À noter que le Conseil norvégien pour les réfugiés a assisté en 2023 plus de 70% de sa population cible. Sur 361 000 déplacés, ils ont appuyé 271 000 personnes dans le besoin dans ces zones d'intervention.